nous accueillons Raphaël Dohan. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes essayiste, écrivain, passionné de l'Antiquité. Et alors vous avez eu cette drôle d'idée que de demander à l'IA d'écrire avec vous un livre, de rédiger des textes, de créer des illustrations. Ce livre s'intitule « Si Rome n'avait pas chuté », il est paru aux éditions Passé Composé. Comment est-ce qu'on demande justement à une machine comme l'IA de travailler avec vous et d'écrire des textes, de créer ces images?
D'abord, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Aurélie Jean tout à l'heure, c'est que ça ne remplace pas ni l'écrivain, ni l'illustrateur.
Il n'a pas remplacé complètement.
En fait. Voilà. Je ne suis pas auto-remplacé bêtement.
Vous êtes senti un petit peu utile quand même.
Un petit peu. L'idée était vraiment de m'en servir pour faire un livre que je n'aurais pas pu faire sans, et pas de faire ce que je pouvais déjà faire auparavant un peu plus vite. C'était pas l'idée. Et donc, je m'en suis servi un peu comme un réalisateur de cinéma, par exemple, utilise des rushs, utilise des plans de tournage. Il a travaillé avec des équipes de montage, d'effets spéciaux, etc. Et là, tout ça peut être agrégé par le biais de l'intelligence artificielle pour qu'un créateur puisse s'en servir assez librement et façonner en fait son œuvre comme il entend la faire, conformément à sa vision. Mais l'IA ne remplace pas la vision, bien sûr.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que l'IA vous a proposé, justement ?
Alors, une des choses qui m'a le plus surpris, c'est dans la génération d'images, la qualité de la fidélité à des objets archéologiques ou à des styles d'histoire de l'art anciens. Parce que souvent, alors je m'étais dit ça, parce que dans les films historiques, par exemple, il y a souvent, on a besoin de faire un tableau du personnage principal, comme s'il avait été fait au XVIIIe siècle, parce qu'il joue un comte ou une comtesse. Et souvent, c'est assez difficile de refaire un tableau qui ait vraiment l'air d'avoir été fait au XVIIIe siècle, et pas par quelqu'un d'aujourd'hui qui a appris à peindre différemment. Et l'IA arrive assez bien en fait à reproduire ce qui fait l'atmosphère générale, disons, d'un tableau du XVIIIe siècle. Et donc pour ce genre d'utilisation, pour reconstituer de faux artefacts historiques, dans un but de fiction ou comme là, de fantasy historique, ça marche extrêmement bien en fait.
Vous dites que pour travailler ce livre, cet ouvrage, l'IA a été trop bienveillante. Elle est trop entraînée à être bienveillante.
Oui, alors c'est un problème qu'on comprend.
C'est parce un problème.
Pour ChatGPT, parce que c'est en l'occurrence j'utilisais GPT-3 qui était la version précédente, mais ils ont un besoin qui est que ça doit être utilisable par n'importe qui. Donc il ne faut pas que ça crée du contenu qui soit choquant, qui soit illégal, qui soit vulgaire éventuellement.
Par définition, ce n'est pas neutre idéologiquement.
Bah oui,
donc, bien sûr, ça on le sait, il y a évidemment des biais. Mais en plus, dans le cas de OpenAI, qui donc à ChatGPT, il y a ce travail supplémentaire qui est réalisé après l'entraînement initial pour conformer les réponses de ChatGPT à des codes et ça marche pas toujours, mais globalement ça marche assez bien. Et quand on veut l'utiliser pour faire un travail de fiction, ça peut devenir un peu un handicap parce qu'il a du mal à dire quand deux peuples se rencontrent, est-ce qu'il peut y avoir une guerre? Plutôt pas. En général, les rencontres doivent être bienveillantes et harmonieuses, etc. Et donc, après, je trouve ça intéressant aussi parce que ça m'a aussi fait sortir de ma zone de confort et peut-être que j'aurais eu d'autres idées si j'avais pas travaillé en partenariat avec l'IA, et donc ça m'a amené dans des endroits différents.
Oui, parce qu'il faut bien comprendre, Aurélie Jean, que c'est parce qu'on la nourrit comme ça, qu'on l'alimente comme ça, que la machine répond de cette façon. Hein.
Absolument, et ce que dit Raphaël est important, parce que ça soulève un point qu'on n'a pas encore abordé, mais sur quelles données ChatGPT, en l'occurrence GPT, parce que c'est l'algorithme GPT, a été entraîné. Et pour comprendre ça, il faut avoir accès aux données que OpenAI a utilisées. Et on sait que c'est majoritairement des données provenant d'Internet, mais aussi des données de Wikipédia et de bases de données ouvertes. Et on sait que sur Internet, tout n'est pas vrai. Vous parliez d'idéologie, il y a certaines idéologies sur Internet aussi. Et donc, on a un énorme problème aujourd'hui, c'est ne connaissant pas le type de données exactes sur lequel cet algorithme a été entraîné, on ne peut pas juger de la pertinence de l'algorithme.
Alors, vous parliez justement des données, des sources. Ça tombe bien, vous avez aussi, vous, Raphaël, créé Vestigia, donc un laboratoire qui veut faire découvrir l'histoire grâce à des expériences d'IA. Et sur votre site, Napoléon Ier, c'est bien ça, répond à toutes nos questions, nos questions en une minute. Et par exemple, on a demandé donc à l'empereur ce qu'il pensait de notre historien maison, Xavier Mauduit. Alors, c'est spécial, il a été recherché donc, dans sa base de données et il nous explique donc que Xavier Mauduit est un grand serviteur de la France, qu'il aurait participé, à la campagne en Italie. Bon, c'est n'importe quoi votre truc.
Ah, mais bien sûr. Alors en fait, on a travaillé à ça et on s'est rendu compte que c'était super drôle en fait de voir qu'il arrive à la fois à faire des liens, parfois assez bien vu dans la recherche stylistique, disons, pour rapprocher la bataille d'Austerlitz avec n'importe quel sujet contemporain, avec Kylian Mbappé ou avec...
Qui n'était pas à la bataille d'Austerlitz.
Et donc, voilà, c'était vraiment... Là aussi, c'est une sorte de fantaisie, en fait. On s'est dit, tiens, c'est très amusant de pouvoir avoir cette capacité à mélanger des éléments pour faire une réponse qui, évidemment, n'a rien d'historiquement correct, en l'occurrence.
C'est drôle, mais c'est faux.
C'est faux, mais c'est bon. Évidemment, on assume bien que là, c'est pas ce qu'aurait vraiment répondu Napoléon. De toute façon, aucun algorithme ne pourra dire ce que Napoléon aurait répondu par principe.
Mais ça peut marcher avec certains de ses contemporains. Quand vous l'interrogez sur les contemporains, sur ses contemporains, par exemple, sur Robespierre, il évoque effectivement ce qu'a été l'héritage de Robespierre pour Napoléon.
Même si par définition, il peut quand même évidemment dire aussi des erreurs. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'ensuite, plus tard, en fait, ça peut devenir un outil parmi d'autres pour refaire de la vulgarisation historique par le biais de simulations en 3D, par exemple, où ce serait intégré, mais comme une partie d'autres choses. Et il faut bien sûr que ce soit allié à un travail, disons, plus scientifiquement correct pour que ça fonctionne en termes de pédagogie.
Alors, Aurélien, c'est vrai que si on explore encore plus loin, là on le voit, c'est une fiction. Alors c'est là où il faut faire attention parce que certains pourraient l'interpréter comme du vrai maintenant. Mais est-ce que finalement une machine, aujourd'hui, ça peut avoir de l'imagination ?
Non, absolument pas. Vous savez, il y a plusieurs choses, il faut... Ça a été dit d'ailleurs dans l'un des extraits par Gaspard Koenig, quelque chose d'inédit n'est pas forcément quelque chose de créé, prenant de la création. D'ailleurs, on appelle ça IA générative et pas IA créative. On est passé à ça, d'un tout un travail de déconstruction sémantique. Non, parce qu'en fait, Raphaël a parlé de vision.
Oui.
La vision, c'est une intention. L'intention, elle est proprement humaine, elle vient de différentes composantes de l'intelligence proprement humaine, qui sont l'intelligence créative, émotionnelle et pratique. Et une IA ne maîtrise que l'intelligence analytique. Elle peut éventuellement simuler d'autres intelligences. Je vous donne un exemple, et c'est pour ça qu'on a un peu confus, on parle de création, mais pas du tout, c'est pas l'imagination, c'est juste un truc inédit créé ou par des corrélations, comme l'a dit Gaspard Koenig. Si un agent conversationnel, par exemple, je peux prendre GPT, le réentraîner derrière et vous en faire un partenaire idéal, et que ce partenaire idéal, tous les matins à votre réveil, vous dit « je t'aime ». Eh bien, c'est pas parce qu'il vous dit « je t'aime » qu'il ressent les émotions sous-jacentes à cette déclaration.
Ça, c'est vrai. Ça existe aussi en vrai, d'ailleurs.
C'est ce qu'on m'a dit aussi.
Un dernier conseil, même aux téléspectateurs, d'ailleurs, c'est de commencer par acheter vos livres, d'ailleurs. Pourquoi
pas, directement. Oui, c'est plus important. Possible.
Merci à tous les deux. En tout cas, rappelons votre ouvrage, Raphaël Dohan, « Si Rome n'avait pas chuté » aux éditions passées composées. Et puis, Aurélie Jean, je rappelle les deux derniers en date, « Data et sport, la révolution » avec Yannick Nyanga aux éditions de l'Observatoire. Et puis, « Algorithme, bientôt maître du monde ». Point d'interrogation, j'insiste. C'était quand même en gros le sujet de notre conversation ce soir aux éditions La Martinière Jeunesse. Merci à tous les deux.